Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, je reçois Martine Ouellette, chef du Bloc québécois. Nous passerons toutes les deux 60 minutes dans le noir.
L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond.
Bonjour Martine.
Bonjour Sophie.
Merci d'avoir accepté cette aventure. Je voulais t'expliquer, Martine, un petit peu le fondement de cette aventure. On trouvait que c'était important que les gens ressentent ce que c'est de perdre la vue, un autre sens, et en même temps d'aller en profondeur dans une introspection, dans une entrevue, pour pouvoir connaître davantage la personne sans que la personne s'appuie par un regard, par un hochement de la tête. Et je voulais savoir comment tu te sens maintenant.
Bien, c'est sûr, c'est un peu insolite qu'on ne puisse pas se voir parce qu'on est habitué de se voir. Et c'est drôle parce que quelqu'un me posait la question un peu plus tôt, puis qui me disait, bien, j'ai l'impression que ça va être une entrevue où on va avoir une meilleure connexion parce qu'on n'aura pas la vue comme distraction.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr, c'est très différent. C'est très différent.
Alors, on y va, si on veut, dans l'handicap. Il y a toutes sortes d'handicaps. Si je te disais d'emblée de jeu que l'handicap en politique, c'est d'être une femme, est-ce que tu es d'accord avec moi?
Oh, c'est sûr qu'on n'aime pas ça de l'entendre comme ça. Mais c'est certain que c'est plus difficile.
Mm-hmm.
C'est plus difficile, mais je pense que c'est aussi un avantage en même temps. On est plus exigeant envers les femmes en politique, mais je pense que c'est aussi un avantage parce que il y a une volonté, surtout des plus jeunes générations, je pense d'avoir, c'est un mot qui est surutilisé, mais de la politique autrement. Je pense que les femmes ont une contribution différente à apporter à la politique. On fait de la politique de façon moins agressive, avec plus de compassion. On a une vision, je crois, moins individualiste et plus collective.
Mm-hmm.
Donc, je pense que cette contribution-là, elle est vraiment essentielle. Et dans ce sens-là, je crois que c'est un avantage.
Un avantage d'être une femme. Alors, j'ai envie de savoir comment tu as été élevée. Martine, une femme de grande valeur, une femme de qualité, une femme qui va toujours au bout de ses ambitions. Mais je suis curieuse de savoir, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ta famille, famille nombreuse venant de ta maman.
Oui.
Hein, ils étaient combien?
Ils étaient 13 du côté de ma mère. Comme ils disaient à l'époque, 3 du premier lit, 10 du deuxième lit. Donc, mon grand-père, que je n'ai jamais eu l'occasion de connaître, s'est remarié. Son épouse est décédée. Donc, c'est ça. Donc, une grande famille. Puis après ça, dans les frères et les sœurs de ma mère, plein de cousins-cousines.
Oui.
Donc, ça faisait des beaux parties du jour de l'an parce que c'est au jour de l'an que ça fêtait. Ma mère vient de Shawinigan, mais les fêtes du jour de l'an se faisaient à Québec parce que comme mon grand-père était décédé, c'est un de mes oncles les plus âgés là, qui a comme pris la figure paternelle, je dirais, uh-huh. là, de cette famille-là. Et c'était à Québec que ça se passait, là, dans une vieille maison.
Et ta maman, parle-moi-en, comment elle était? Parce que, comme figure, est-ce que tu as pris ton militantisme de ta mère, de ton père? Comment?
Je dirais probablement un peu des deux. Moi, ma mère, elle travaillait. Donc, à l'époque, j'avais plusieurs de mes amis, moi, que leur mère ne travaillait pas, était à la maison. Donc, moi, je me faisais garder chez la voisine. C'est comme ça que ça fonctionnait, que c'était plus facile. Il n'y avait pas de garderie à l'école à ce moment-là. Et donc, moi, ma mère travaillait. Elle était enseignante de mathématiques au cégep Édouard-Monty. Et elle s'est beaucoup impliquée dans l'association de quartier pour, justement, l'action collective, pour des activités pour les enfants, pour les adultes, pour les aînés. Et elle s'est aussi présentée à l'élection municipale au début des années 80, avec, à l'époque, c'était le maire Robida.
Oui, tout à fait.
Qui était là, donc qui était bien connu à Longueuil. Malheureusement, elle n'a pas gagné, mais elle s'était présentée. Là,
donc, il y avait une petite touche politique de ta mère, quand même, une implication pour aller jusqu'à se présenter.
Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, le local électoral était à la maison, dans le sous-sol. Et j'ai eu l'occasion de voir chacune des étapes d'une campagne électorale et j'ai moi-même participé.
Mais tu avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 12 ans.
Oh!
J'avais 12 ans. Je ne sais plus combien de clés de porte que j'ai distribuées dans les portes du quartier.
Donc là, déjà, là, on voit que ça se trame par rapport à ta maman. Tu l'aides. Ça t'intéresse à ce moment-là?
Bien, ça m'intéresse. C'était l'activité de la maison. Hein. On ne se posait pas vraiment la question. Puis, bien oui, on participe. Moi, je croyais que c'était important que ma mère soit élue. Donc, puis ce qu'elle faisait, ça améliorait la collectivité. Donc, je trouvais qu'elle avait une contribution positive à apporter. Mais mes parents étaient aussi impliqués en 76, ont été aussi impliqués au référendum de 80. Mais là, j'étais comme vraiment plus jeune. Là, mais je me rappelle d'avoir vu des affiches de René Lévesque là, dans les fenêtres de la maison, parce qu'encore là, à l'époque, il y avait beaucoup d'affichage au niveau des résidences. Donc, c'est ça.
Et donc, parle-moi de ton père. Ta maman donc était enseignante. Ton papa, qu'est-ce qu'il faisait?
Mon père a fait plusieurs métiers, mais vers la fin des années 70, je ne sais pas exactement quelle année, je pense 78, quelque chose comme ça, il est devenu professeur, lui aussi, au HEC, donc en mathématiques. Ils sont connus dans le département de mathématiques de l'Université de Montréal, donc c'est pour ça que tous les deux sont en mathématiques. Et c'est ça, lors de la campagne électorale de ma mère comme conseillère municipale, échevin qu'on disait à ce moment-là, mais c'était mon père qui était DOC, directeur d'organisation.
C'est incroyable. Alors, est-ce que dès que tu es jeune, tu sais que tu veux aller en génie? Comment ça se passe, ton enfance? Est-ce que tu es une adolescente turbulente, tranquille? Tu bouquines? Comment tu es?
Bien, en fait, moi, j'ai été enfant unique jusqu'à l'âge de 12 ans environ. Et ensuite, il y a mon frère qui est né. Et donc, j'ai été pendant plusieurs années, parce que tant qu'il était tout petit, puis même enfant, j'ai été un peu comme, bien, plus qu'une grande sœur, j'étais un peu comme un troisième parent, parce que la différence d'âge était tellement grande. Aujourd'hui, bien, on est frères et sœurs, mais à l'époque, la différence d'âge était tellement grande. Donc, c'est ça. Donc, à partir de 12 ans, bien là, c'est sûr, je me suis occupée de mon petit frère. Mais, donc, c'était quand même là, assez tranquille à la maison. Nous étions juste deux. Et c'est ça. Moi, j'ai fait plusieurs activités, que ce soit de la natation, j'ai fait des cours de ballet.
Ah oui?
cours de ballet jazz, cours de ballet classique avec les pointes et tout.
Et est-ce que ça, tu voulais être une ballerine?
Oh, ben non. C'était vraiment pour le plaisir. Je pense pas que j'avais ce talent-là. J'avais pas la souplesse. Déjà assez jeune, je le voyais que j'avais pas la souplesse pour ça, là. Mais quand même, là...
Il y a eu une attirance pour la culture, pour les arts.
Pour la culture, pour la danse, pour la musique, des cours de flûte traversière, un petit peu de cours de piano. Donc, ça a été quand même assez actif, là, pendant toute mon enfance, mon adolescence. C'est sûr, l'adolescence, ben là, c'est
rebelle? J'avais posé la question. Rebelle? Est-ce que Martine était rebelle?
Non, pas vraiment, mais il faut dire que mes parents me laissaient beaucoup d'autonomie, beaucoup de place. Si je voulais sortir, faire des activités, j'ai pas vraiment eu de contraintes. Donc, peut-être que ça invite moins à être rebelle quand, dans le fond, il y a l'acceptation autour de soi de ce qu'on veut faire. Donc, j'ai pas eu besoin. Je dirais peut-être ça comme ça, j'ai pas eu besoin.
Et qu'est-ce que, autour d'une table chez Ouellet, les Ouellet, on discutait de quoi? Est-ce qu'il y avait un dimanche après-midi, un dimanche midi qui était sacré? Est-ce que ça discutait fort? C'était comment?
Bien, je dirais pas mal tous les soupers. Ça discutait politique, mais pas nécessairement politique partisane, là. Donc, des décisions de ce qu'il y avait dans l'actualité. Ça discutait aussi beaucoup du travail. Donc, l'ensemble de ce qui arrivait à ma mère ou à mon père. Puis, bien, c'est sûr que j'avais ma place aussi si jamais il y avait des choses dans la journée, de comment les choses avaient été avec un professeur ou avec des amis. Mais moi, avec des amis, ça, j'en discutais moins avec mes parents, mais plus, par exemple, avec des professeurs ou de ce qui pouvait se passer dans la journée. Donc, oui, les soupers, beaucoup, beaucoup de discussions.
Et les valeurs, parce que je sais que les valeurs pour toi, de ta famille, te portent encore. Quelles étaient, quand tu parles de tes parents, c'est quoi les valeurs que tu retiens de tes parents?
Ça, c'est toujours des questions. Hein. Je dirais l'implication. La volonté... moi, je me rappelle, mon père m'avait dit, parce que j'avais dit, bon... qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie? Il disait, tu peux faire ce que tu veux, mais il dit, fais le bien. Mm. Donc, d'utiliser son talent au mieux et de s'impliquer pour la collectivité. Il y avait vraiment une vision collective dans la maison. C'était pas du tout individualiste. Et la société, l'amélioration de la société, l'avancement de la société globale, c'est toujours dans cette optique-là que mes parents ont travaillé. Puis comme enseignante, professeur, ben c'était ça aussi qu'ils travaillaient. Mm. Que les jeunes, que les étudiants aient plus de connaissances, apprennent pour pouvoir ensuite servir mm-hmm. la société. Mm-hmm. Donc, c'était dans cette vision-là, leur enseignement au cégep, à l'université. Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup de discussions, parce que je me rappelle, c'est même arrivé à quelques occasions que mon père est allé remplacer ma mère.
Ah oui?
Oh, oui. Même moi-même, je suis allée quand j'étais plus vieille. J'avais terminé mes études à ce moment-là, et ma mère avait dû s'absenter pour un examen. Elle m'a dit, « Oh, Martine, là, j'ai pas de remplaçant. Est-ce que tu peux aller me remplacer pour l'examen? » Donc, j'avais été la remplacer. Là, c'était pas trop difficile. Là. C'était un examen, donc j'avais pas de matière à enseigner, mais bon, ça aurait pu arriver aussi, là.
Et ton choix d'université, je pense que ça n'a pas été, ça a pas fait l'affaire de tout le monde dans ta famille, non?
Bien, il était très surpris. Parce
c'est ton père qui était, je crois, qui n'était pas...
Oui, bien, il était très surpris venant d'une famille quand même très souverainiste, très pro-français. Mm-hmm. Et j'avais finalement décidé, j'hésitais, moi, entre génie et droit.
Ah, OK. Il y a un moment donné dans ta vie où tu as voulu avocate.
Oui, j'ai fait... Okay. J'hésitais vraiment entre les deux. Puis, en fait, la réflexion, la logique... encore la logique, hein, mathématiques, logique. Oui. La logique que je me suis dite, c'est... En fait, je pourrais refaire le droit n'importe quand. Mm-hmm. Parce que c'est facile de retourner en droit en termes de connaissances. En génie, ça prend la gymnastique des mathématiques. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un entraînement marathon. Mm-hmm. Tu ne peux pas aller faire un marathon du jour au lendemain. Tu as besoin de faire un entraînement. Mm. Donc, moi, j'avais déjà du secondaire, du cégep, tout mon entraînement mathématique, puis ça allait très bien. Mais c'est sûr que le jour où tu arrêtes d'en faire beaucoup de mathématiques, il faut que tu t'y remettes, puis ça prend un certain temps avant d'atteindre le même niveau. Oui. Donc, je me disais, le génie, je ne pourrais pas retourner facilement. Donc, je me suis dit, je vais commencer par génie. Si jamais j'aime pas ça, bien, je pourrais ensuite aller faire le droit.
D'accord.
Donc, j'ai décidé d'aller en génie. Puis après ça, bien, en génie, à Montréal, il y avait deux universités à l'époque. Il y avait la Polytechnique et il y avait McGill. Parce que l'ETS, à ce moment-là, ne permettait pas d'avoir un diplôme de génie mécanique. Ah, n'était pas reconnu.
Ah bon?
Ça, par la suite, là, maintenant, l'ETS est reconnu. Mais à l'époque, c'était pas reconnu. Mm. Et j'ai décidé d'aller à McGill. Donc, ça, c'est sûr que c'était pas... mes parents étaient très surpris. Et j'ai choisi McGill pour, en fait, principalement... pour deux raisons. Principalement parce que à Polytechnique, il y a un tronc commun la première année. Et donc, dans ce tronc commun-là, tu refais de la chimie, de la mécanique, de l'électrique. Et moi, j'avais déjà décidé en quel génie je voulais aller. Je voulais aller en génie mécanique. Mm-hmm. Et mes cours de chimie au cégep, je les ai faits, là, mais j'avais vraiment pas le goût de les recommencer puis de pousser plus loin. Donc, j'avais pas le goût de retourner dans ces matières-là. Et à McGill, on rentre directement dans notre matière.
Alors, donc, est-ce que ça a été des années passionnantes? Est-ce que tu gardes un bon souvenir de tes années, justement, où tu étais en génie mécanique? Est-ce que, pour toi, ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé... il y avait une belle convivialité, beaucoup de collaboration. On se prêtait facilement nos notes de cours, les devoirs des anciennes années pour pouvoir nous aider des fois à faire des pratiques. Les examens des anciennes années aussi circulaient avec même les réponses. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de collaboration et je sais pas, la mentalité qu'il y avait à ce moment-là, c'est on travaille fort, mais on fête fort. Donc, il y avait aussi beaucoup de parties.
Ah oui?
Oui. Et aussi, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de participer, ce qui était très populaire à McGill pour l'ensemble là, des cours de génie. C'était à l'automne, c'était le flag football. Mm-hmm. Et à l'hiver, c'était le broomball, donc le ballon ballet. Donc, faites partie aussi des équipes pour la première année.
Alors, parce donc, tu étais pas mal sportif, tu t'impliquais là-dedans?
Oui, je me suis impliquée dans ça. Et donc, c'était vraiment. Donc, vraiment un travail là, où de camaraderie, vraiment, à l'université. Mais c'est quand même des études exigeantes. Là.
Est-ce que tu voyais une différence entre, on va en revenir tout à l'heure, on va consacrer du temps, évidemment, à ton métier de politicienne, mais est-ce que tu voyais une différence à ce moment-là, quand tu étais en génie, quand tu étais à l'université, entre être une femme et un homme?
Non.
C'était pareil?
Oui.
Donc, tu n'as pas rien senti, c'était... Est-ce que vous étiez plus nombreuses,
Stéphane? 10%.
Seulement 10%?
C'est ça, en génie mécanique, pas en génie... mais en génie mécanique, et c'est encore le cas aujourd'hui.
Aïe, 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 donc tu te sentais un peu privilégiée.
Bien, moi, je faisais pas de différence. Et franchement dire, dans toute ma carrière, même si j'ai travaillé dans des milieux très masculins, parce que quand j'étais chez Hydro-Québec, je travaillais avec les grandes entreprises, j'étais sur le terrain, souvent dans les usines, donc souvent la seule femme. J'ai, franchement dire, jamais vraiment senti de discrimination. Là où j'en ai senti le plus, c'est quand j'ai fait de la politique. Façon assez surprenante, hein, parce que pourtant, dans les usines, il n'y a pas beaucoup de femmes... on pouvait voir certains calendriers dans les casiers, mais en termes de relations, en termes de discussions, je ne sentais pas de différence.
Il n'y avait aucune différence et c'est après que tu as senti que tu étais une femme un peu plus tard. Mais parle-moi d'Hydro-Québec, est-ce que c'est le premier travail que tu as en sortant de l'université?
Vraiment c'est ça, chanceuse, hein? C'est ça que parce que... Il faut se replacer à l'époque, aujourd'hui...
C'est ça, je cherchais d'autres emplois, je ne voyais pas, là,
non. Surtout. Aujourd'hui, l'accès à l'emploi est plus facile, mais il y a des époques qui ont été moins faciles. Et en 92, c'était extrêmement difficile de se trouver de l'emploi au sortir de l'université. D'ailleurs, j'ai plusieurs amis qui ont continué à faire une maîtrise. Et moi, j'ai fait plusieurs applications un peu partout, mais dont Hydro-Québec. Et j'ai eu une première entrevue à Hydro-Québec pour un poste temporaire en production que je n'ai pas eu. Fait que j'étais très déçue. Mais finalement, j'ai eu une deuxième entrevue, mais cette fois-là pour un poste permanent. C'était directement un poste permanent, mais c'était en distribution et je l'ai eu. Donc, et j'ai appliqué par la grande porte. Là, j'ai envoyé mon curriculum vitae à l'adresse d'Hydro-Québec sur René Lévesque. Puis c'est ça, j'ai reçu là, deux demandes d'entrevue. J'avais eu d'autres demandes d'entrevue avec Procter & Gamble, par exemple, ou avec ABB. ABB aussi, la formule était très intéressante. C'était 6 mois au Québec, l'usine à Montréal, 6 mois ailleurs au Canada et 6 mois ailleurs dans le monde. Mais à l'époque, mon chum travaillait à Montréal. Et je n'avais pas vraiment le goût de partir pendant 12 mois. Donc, c'est ça. J'avais préféré
Et tu étais heureuse à ce moment-là quand tu faisais ce métier? Est-ce que ça allait bien? Est-ce qu'il devait te manquer un petit quelque chose? La militante devait revenir de temps en temps? Parce que je pense que tu as commencé à militer à l'âge de 18 ans pour le PQ. Mais qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu te dis, bon, OK, je suis bien, c'est chouette, Hydro-Québec, c'est une grosse boîte. Je me sens bien, il n'y a pas de discrimination. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu dis « je pourrais aller ailleurs »
Ben, en fait, je ne me suis jamais dit ça. Et je n'ai jamais arrêté de militer. À partir de 17 ans, je n'ai jamais arrêté. Là. Moi, j'ai continué. J'étais dans les instances du Parti québécois lorsque j'étais au cégep, lorsque j'étais à l'université. Et j'étais encore dans les instances du Parti québécois lorsque j'ai été engagée chez Hydro-Québec. Mm-hmm. Et je suis restée dans les instances jusqu'en 2000. Donc, j'ai jamais arrêté de militer. Ça, c'est du bénévolat, là. Donc, et j'ai eu l'occasion, pendant ces années-là, donc de 87 à 2000, d'écrire la politique de gestion des déchets. Il faut juste se rappeler, là, c'est la politique de 94, du gouvernement du Parti québécois de 94. À l'époque, il n'y avait pas de recyclage, pas de récupération. Là, on partait de loin, là. Donc, toute une nouvelle politique de gestion des déchets. Qu'on appelait les 3 RV. Là, mm-hmm, hein? Mm-hmm. Et ensuite, la politique énergétique de 1996, qui est encore un modèle de consultation aujourd'hui. Et finalement, la politique de l'eau de 2002, que j'avais tout écrite dans le programme du Parti québécois. J'avais eu l'occasion de faire une tournée de l'ensemble des régions pour aller présenter les différentes propositions aux membres du Parti québécois.
Alors, tu étais extrêmement impliquée, oui. Pas parallèlement, en fait, quand les deux étaient là en même temps. Martine, on va aller à ta première chanson. Parle-moi de cette chanson.
C'est « Viens-t'en danser ». Je trouve que les paroles, le rythme, ça, c'est vraiment une particularité, je dirais, Serge Fiori et Richard Séguin. Le son des mots et la musique, la recherche qu'ils faisaient pour la sonorité, moi, ça me donne toujours le goût de danser. Et j'ai tellement dansé avec les enfants dans les bras avec cette chanson-là.
Alors, on l'écoute. Martine, la femme qui a toujours été militante, qui a été ingénieure et qui on l'est toujours parce qu'on ne perd pas son métier parce qu'on en fait un autre. Il y a eu donc des changements dans ta vie. Les années 2000 ont été extrêmement importantes, mais tu as milité. Il y a dû avoir, une retraite, je pense, de M. Bouchard. Où là, finalement, c'était la porte ouverte pour que tu te présentes pour une première fois. C'est ça, que des élections qui étaient partielles.
Hein? Oui, mais en fait, c'était en 2010.
2010.
Donc, de 2000 à 2010, je ne me suis pas représentée au Parti québécois et c'est là que je me suis impliquée avec Au Secours. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas arrêté de militer quand j'ai quitté le Parti québécois, parce que j'avais fait un peu le tour du jardin. Puis aussi parce qu'il faut se rappeler à l'époque, c'était Lucien Bouchard qui était là. Mm-hmm. Et moi, il avait proposé la privatisation de la gestion de l'eau à Montréal. Puis je m'y étais opposée très fermement. On avait fini par gagner, mais ça avait été une grosse bataille à l'interne. Et j'avais eu l'occasion de connaître Au Secours. Et donc, j'ai dit, ben là, j'ai fait ce que j'avais à faire au Parti québécois. Et je suis allée avec Au Secours pendant 10 ans. Et en 2010...
Donc, de 2000 à 2010, tu...
J'ai été vice-présidente, porte-parole et présidente d'Au Secours.
OK. Mm. Est-ce que tu vas jusqu'à déchirer ta carte du PQ?
Non, pas du tout.
Elle est où, la carte, à ce moment-là?
Elle est toujours dans mon porte-monnaie.
Elle est dans ton porte-monnaie. Oh, oui. Donc, il y a comme une espèce de porte ouverte, là.
Oh oui, il y a une porte ouverte. Je participais à certaines activités, mais okay. Avec une beaucoup plus grande distance, puis uh-huh. Beaucoup plus, uh-huh. À l'extérieur.
OK.
En 2010, c'est Pauline Marois qui est venue me chercher.
C'est ça. Alors, raconte-moi, est-ce que tu peux me dire exactement comment ça s'est passé? Ça se passe au téléphone? Ça se passe en personne? Comment tu es? Quel mot elle a employé pour aller te chercher?
Ben, en fait, moi, je connaissais Pauline Marois depuis le début des années 90 parce que j'avais fait partie de l'exécutif dans Taillon. C'est là où habitait et habite toujours ma mère, l'exécutif qui avait été la chercher. J'étais vice-présidente et je faisais partie du groupe qui avait été la chercher comme candidate et qui est devenue députée du Parti québécois dans Taillon, mm-hmm. à la suite du retrait de Claude Filion, qui avait pris la relève de René Lévesque, parce que notre député, c'était René Lévesque. Et donc, on se connaissait depuis ce temps-là. On avait eu l'occasion de travailler les dossiers d'environnement parce qu'elle avait été quelques années porte-parole en matière d'environnement. Et on avait gardé contact parce que je suis venue habiter quelques années à Montréal, mais je suis restée essentiellement à Longueuil. Mm-hmm. Donc, on avait gardé contact. Et en 2010, elle m'a demandé de me présenter à l'élection. Elle m'avait demandé aussi un peu avant, mais ça avait moins à donner. Et en 2010, elle m'avait demandé de me présenter à la partielle, et donc à Saint-Hubert, qui était dans mon coin.
Oui.
Mais à ce moment-là, chez Hydro-Québec, j'ai vraiment eu des années, je vous dirais, de pur bonheur chez Hydro-Québec. J'ai eu des mandats exceptionnels, extraordinaires. Et j'étais sur un très, très gros mandat. J'étais sur... de faire toute l'analyse de ce qu'on appelle la revue diligente. Donc, c'est un peu comme l'inspection d'une maison, quand on achète une maison, mais là, c'était l'inspection de tout le réseau d'énergie Nouveau-Brunswick, quand Hydro-Québec
avait voulu... Alors, donc, dossier fort, trop dossier...
C'est ça, très... très
et donc, pas la tête vraiment à se lancer en politique active?
Pas vraiment. Et avec mon implication au secours, mon travail chez Hydro-Québec, où j'ai travaillé pendant plusieurs années en efficacité énergétique, j'avais des outils, je trouvais, pour faire avancer la société qui était quand même assez intéressant parce que des budgets intéressants à Hydro-Québec, on a de la marge de manœuvre et tout ça. Donc, ça n'a pas été la première quand elle me dit, j'ai dit, ben oui, c'est sûr, ça peut être intéressant, mais je dis, je suis très occupée, j'ai des gros mandats, des gros dossiers. J'ai dit à Pauline, ben oui, ça pourrait m'intéresser, mais je pourrais aussi t'aider plutôt... de l'extérieur, je pourrais t'aider comme conseillère si tu le souhaites. J'ai pas besoin d'être députée parce que c'est sûr qu'avec le temps, on se rend compte de comment ça fonctionne la politique et les gens qui sont dans l'entourage de la première ministre ont souvent plus d'influence que des députés et même que plusieurs ministres, pas tous, mais que plusieurs ministres.
Donc, c'est qui est au-dessus, quoi, la chef de cabinet en général.
Donc, j'ai dit, je pourrais être dans ton entourage. Pas chef de cabinet parce que ça, c'est vraiment de l'organisation, tout ça, mais dans ton entourage, conseillère spéciale ou je ne sais pas trop quoi, où je dis, de l'extérieur même, je pourrais t'aider, même bénévolement, je pourrais continuer mon travail. Puis... Et donc, on a eu quand même quelques conversations, puis elle a fini par me dire, Martine, j'ai besoin de toi.
Bon.
Donc, j'ai dit, si tu as besoin de moi, je vais être là.
Et donc, ça s'est bien passé. C'était avec... c'est dans Vachon.
Oui.
Remplacer Camille Bouchard, qui est un être aussi extraordinaire que toi, quelqu'un qui a une pensée sociale très
fort. Le père des CPE.
Exactement, l'éducation.
Donc, c'est ça.
Et comment tu te sens avec cette première campagne porte à porte, tes premiers moments, comment tu te sens, comment d'abord réagit ta famille, ton père, ta mère, comment ça se passe?
Bien, c'est sûr que m'ayant vu de faire autant de politique, ils n'étaient pas surpris, très fiers que je me présente. Ils m'ont d'ailleurs toujours supporté, aidé dans mes démarches. Et comme j'avais fait beaucoup de politique, j'avais une bonne idée à quoi pouvait ressembler une campagne électorale. Mm-hmm. Une partielle, c'est un petit peu différent, mais quand même pas tant. Donc, ce volet-là ne m'a pas trop surpris. Puis j'ai eu 6 mois de pré-campagne parce que ça a pris beaucoup de temps avant que Jean Charest déclenche. D'ailleurs, il a déclenché l'élection. L'élection a lieu le 5 juillet. Je veux dire, on n'en revenait pas.
C'est incroyable.
Hein? Épouvantable.
Ouais, ouais.
En termes de cynisme, là.
Ouais.
Je veux dire, c'est un message de cynisme épouvantable qu'il a lancé.
Ouais.
Mais ce qui m'a beaucoup, sur le coup, je dirais même un peu découragée, Pauline est venue 6 fois dans le comté, puis je l'accompagnais toute la journée, mais le rythme de travail qu'elle avait, là, juste à la voir aller, là, on sortait de l'auto, on faisait les activités, soit d'aller voir les gens, soit de saluer les gens. Elle rentrait dans l'auto, revue de presse, entrevue, 2-3 commandes, ça n'arrêtait jamais. Juste de la regarder aller, je trouvais ça épuisant.
Et puis de la voir. On va faire une petite pause et on revient.
L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond.
Alors, Martine, c'était fou de voir aller Pauline Marois. Tu trouvais que c'était... Elle avait un agenda incroyable, c'est ça?
Bien, un rythme de travail et des dossiers tous différents, là, un après l'autre. Ça demandait une concentration incroyable.
Mm-hmm.
Et c'est ça, je regardais aller ça, je me disais, mon doux, c'est ça que ça veut dire, une journée de travail en politique.
Oui.
Et ça, je le voyais à l'époque et je me disais, c'est épouvantable. Mais aujourd'hui, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, on s'habitue à toutes sortes de choses, ça devient mon quotidien. Là.
Mais c'est ça. Avant d'aller dans ton quotidien, il y a quand même, moi, je vois Martine, et tout le monde voit Martine, une battante, Martine, la guerrière, Martine qui est rendue chef du Bloc québécois, mais qui a gravi les échelons. Ça n'a pas été facile. J'ai eu personnellement l'occasion de te côtoyer en campagne. Une femme travaillante, une femme qui est structurée. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu te dises, parce qu'il y a une occasion, évidemment, il y a un chef qui part, et tu te dis, ben, je vais me présenter, la chef, ta chef, qui est partie en 2014, et tu te dis, ben voilà, je connais mon comté, je suis active là-dedans depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ben, je serais capable de diriger le PQ?
En fait, ce n'était pas prévu du tout. Moi, ma vision, quand j'ai accepté avec Pauline en 2010 de me présenter, je me disais, bon, on est en 2010, l'élection générale est en 2012, je vais avoir 2 ans d'opposition pour apprendre un peu le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. 2012, c'est le gouvernement. Donc, je me disais, je ferai 2 mandats de gouvernement. Celui de 2012 et ensuite, normalement, ça aurait dû être celui de 2016. Et ensuite, pour moi, je me disais, la politique, j'aurais fait ce que j'ai à faire et je retournerai là, soit chez Hydro-Québec ou faire autre chose. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on a été élu minoritaire en 2012 mm-hmm. et parce qu'on est retourné en élection en 2014. Et d'ailleurs, on a eu le plaisir d'être colocataire et ça s'était vraiment bien passé parce que ce n'est pas toujours évident en politique.
Non, c'est ça.
Et nous, ça a été vraiment d'une convivialité parfaite.
Oui. Et c'est comme ça que je t'ai connue et beaucoup d'admiration, les auditeurs le savent. Pour toi, parce que je t'ai vu aller rencontrer les gens dans tous les milieux, mais aussi d'une extrême. Il y a un communiqué de presse, et je retiens de Martine Ouellette que même si c'est le bureau chef qui l'envoie, Martine va prendre 30 secondes avec son attaché, avec Patrick. Il n'y a rien qui va sortir. Il y a cette rigueur, chapeau, parce que je la sens très présente. Alors, je ne te coupe pas. Je veux continuer avec ton élan de 2012, où là, finalement, ce que je m'aperçois, c'est que tu n'avais pas vraiment l'intention de te voir chef, c'est ça?
Ah non, mais ce n'était pas du tout là. Ça ne faisait même pas partie du portrait. Et là, donc, en 2014, défaite électorale, Pauline Marois se retire. Et là, je regarde l'avenir. Et je regarde qu'est-ce qui... Parce qu'au début, on ne sait pas exactement qui va se présenter, mais mm-hmm. on écoute les rumeurs un peu. Qu'est-ce qui commence à se dégager? Mm-hmm. Et... moi, ce qui se présentait, ça ne me rejoignait pas. Et je me disais, ou je me mets en retrait, ou je décide de plonger pour présenter une autre option, pour présenter une autre avenue. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours eu une vision très collective où le développement durable faisait partie, moi, de ma philosophie du développement économique. Je ne crois pas qu'il peut y avoir du développement économique qui soit viable sans qu'on considère les impacts environnementaux, mm-hmm. les impacts sociaux, parce qu'on ne mm-hmm. fait pas du développement économique pour enrichir les plus riches, on fait du développement économique pour enrichir une société. Et mm-hmm. ça, c'est très différent. Mm-hmm. Les plus riches, ce n'est pas une société. Ce n'est pas vrai que ce sont les plus riches qui font rouler l'économie. Non, non. Mm-hmm. C'est l'ensemble de la société qui fait rouler l'économie.
Alors tu me déballes ton cheval de bataille, tu en as plusieurs, qui te porte finalement à dire « j'ai ce message-là ». Allez.
C'est ça. Et je ne retrouvais pas ça dans ce qui était offert. Et une vision énergétique, une vision environnementale. Vous savez à quel point j'ai travaillé ces dossiers-là avec uh-huh. l'eau, avec les gaz de schiste. C'est du tout début de mon implication. Et donc, je me suis dit, bien, je vais offrir cette option-là aux membres du Parti québécois. Et c'est comme ça que c'est parti.
Mais il y a eu un moment difficile où... je parlais d'intégrité de ta personne, et on le sait, où ta chef, avant qu'elle démissionne, ça n'allait pas parce que toi, tu disais quelque chose sur l'environnement et tu tenais, et elle te donnait un discours. Et je pense que ça a été un moment très dur dans ta carrière politique parce que ça doit être difficile quand on n'est pas en accord avec notre chef et on a des convictions. Comment tu as fait pour te sortir de ça?
Bien, en fait, c'était pas tant juste ma chef. L'opposition la plus forte venait de l'ensemble du ministère des Finances. Okay. Donc, et je crois que Pauline, elle a été convaincue par les gens du ministère des Finances. Et même les gens au ministère des Ressources naturelles, quand au début, Pauline m'avait donné le mandat de toute la question des redevances, il m'avait dit, écoute Martine, jamais le ministère des Finances va te laisser faire. Mm. Fait que je suis allée voir Pauline, j'ai dit, c'est-tu vraiment moi qui ai le mandat? Elle m'a dit oui. Donc, j'avais deux choses. J'avais organisé le forum et j'avais organisé aussi, faire des propositions sur les redevances. Et pour le forum, il a fallu que je me batte pour inviter les gens que je croyais qu'ils devaient être invités pour donner une version diversifiée. Ça a été un grand succès. Mm. Pour les redevances, j'ai réussi avec mon ministère. J'ai dit, écoutez, nous, on va faire notre travail. On va préparer une proposition qu'on pense qui va être la meilleure proposition. Et on l'a fait. Mais Finance ne voulait pas nous laisser aller comme ça. Mm-hmm. Et Finance a aussi fait sa proposition. Et moi, j'ai dit à Pauline, c'est ton privilège de choisir laquelle des deux propositions tu souhaites mettre en place. Mm. Mais moi, clairement, la proposition de Finance, je ne serai jamais en accord avec cette proposition-là. Et moi, je ne la défendrai pas. Je n'irai pas parler publiquement en contre, mais je ne la défendrai pas. Et elle a fait son choix. Et ça fait partie de son privilège de première ministre. Je pense que ça, il faut respecter ça. Ouais. Donc, il y a eu des moments comme ceux-là. Puis pour ne pas parler aussi de celui d'Anticosti.
Oui, tout à fait. Je pensais à celui-là en particulier où Anticosti, tu t'es battu. Puis là, finalement, ça prend encore une autre direction.
C'est ça. Anticosti, le premier volet qui était de dire on veut reprendre les droits sur l'île qui avaient été cédés par Jean Charest, mm-hmm. qui avait exigé qu'Hydro-Québec cède ses droits et on n'avait pas eu accès à l'entente, hein, l'entente secrète, etc. Ça, puis moi, j'avais réussi justement à rendre cette entente-là publique. Ce volet-là, j'étais d'accord. Et donc, l'entente qui a été signée était essentiellement sur ça. Là où je n'étais pas d'accord, c'est que, en termes de message lancé à la population, parce qu'il n'y avait aucune autorisation de forage, aucune autorisation de fracturation dans ce contrat-là. Sauf que, en lançant cette idée-là, et en ne disant pas en même temps, on va faire un BAP dès maintenant, moi, j'avais un problème. Parce que je me disais, on ne peut pas, quand on dit qu'il faut faire des BAP sur les projets, dire certains projets doivent faire le BAP et d'autres ne le font pas. Mm-hmm. Et surtout un projet comme celui-là, qui clairement avait des impacts. Et moi, j'étais convaincue, et d'ailleurs, ça a été démontré par la suite, qu'une fois qu'on allait chercher l'ensemble des informations, mm-hmm. que clairement, ce projet-là ne tiendrait pas la route. Puis premièrement, d'un point de vue économique, mais deuxièmement, d'un point de vue environnemental, mais même premièrement, d'un point de vue économique. J'avais suffisamment d'informations, mais qui n'étaient pas très détaillées, pour me dire, « Mais semble ça ne fonctionnera pas. » Fait, est-ce qu'on peut faire les analyses dans un premier temps avant d'avancer trop loin? Mm-hmm. Et là, la façon dont c'était prévu, c'est que la première année, c'était des sondages stratigraphiques, ça qui ont très peu d'impact. Et je me disais, dans cette année-là, je vais avoir le temps de convaincre Pauline de dire qu'il faut faire le BAP qui va se tenir pendant cette année-là,
et puis ça,
avant de faire les forages.
Est-ce que tu as réussi?
On est tombé en élection. Moi, je me donnais jusqu'au mois de juin pour convaincre Pauline, et de juin 2014 à juin 2015, à ce moment-là, pouvoir faire le BAP. On est tombé en élection, mais avant l'élection, je n'avais pas réussi à la convaincre. Ça, c'est clair, avant l'élection, je n'avais pas réussi.
Martine, est-ce que tu étais là où il y a eu la tentative d'assassinat de Pauline Marois ce soir-là?
L'attentat du métropolis, oui, j'étais là.
Comment...
Sur le coup, j'étais là avec mon garçon, mon frère, des amis de mon garçon. Sur le coup, on savait pas c'était quoi. Un peu de boucan à l'arrière. On voit Pauline qui est retirée, mais qui revient. Mm-hmm. Donc, de la salle, on pouvait... En tout cas, moi, j'avais pas du tout su qu'est-ce qui s'était passé. C'est quand les discours se sont terminés, que là, j'ai plus su et que j'ai tout de suite donné les clés de l'auto à mon frère pour qu'il ramène mon garçon à la maison le plus rapidement possible. Et après ça, avec mon attaché politique, l'auto était prise dans le périmètre de sécurité. Donc, on a été obligé d'attendre, mm-hmm. même finalement, on a été obligé de prendre le taxi. Et c'est pendant ce laps de temps-là et de retour à la maison que je me suis rendu compte de l'ampleur. Mm. Et je trouve qu'il y a eu comme un grand silence sur cet attentat-là. On ne l'a même pas qualifié d'attentat. C'est vraiment une tentative d'assassinat. Mm. D'une femme première ministre indépendantiste. Mm. C'est clairement ça. Et s'il avait réussi, s'il avait fallu qu'il réussisse à se rendre jusque sur la scène, c'était une arme semi ou automatique qu'il avait entre les mains. Ça aurait été un dégât épouvantable. Et j'étais aux premières loges, là, parce que j'étais en avant. Donc, tu te dis dans une soirée comme ça, je suis vraiment passée proche, puis on est tellement chanceuse que son arme se soit enrayée, parce que sinon, c'était un carnage. Un carnage épouvantable. On ne peut même pas s'imaginer le nombre de morts et de blessés que ça l'aurait fait, parce que la foule est, tu sais, sur la scène, puis la foule est juste en face. On l'a vraiment échappé belle. Et on a, je crois, trop voulu cacher ce qui s'était passé. Je ne pense pas que c'était une bonne idée. Je pense qu'il y a... ça n'a jamais été dit. Les gens n'ont jamais trop voulu faire l'analyse de ce qui s'est passé. Mais, bon, c'est un individu. Bon, je ne sais pas tout ce que le jugement a dit, là. Je n'ai pas tout lu là-dessus, mais probablement un peu trop exalté, puis tout ça. Mais quand des individus comme ça exaltés passent de... La rêverie, hein, parce que c'était probablement dans sa rêverie, à l'action, c'est pas anodin. Et je crois que la haine et les propos haineux des journaux anglophones sont en partie responsables.
Il y a encore beaucoup de haine. Moi, je l'ai dit d'emblée de jeu dans mon introduction, tentative d'assassinat, il y a deux choses qui devraient te toucher. Une femme, indépendantiste, tes valeurs, et une politicienne, de trois choses, finalement. Ces valeurs-là que tu portes toujours, tu l'es. On a vu que tu n'as pas choisi de te présenter la première fois que tu y vas. Il y a eu aussi un épisode, je ne sais pas comment tu t'es sentie, en 2014, où on voit les hommes arriver sur la scène, alors que le cadavre, je m'excuse de dire ça, mesdames, messieurs, mais il y a le cadavre qui n'est même pas refroidi en arrière. On a une émotion d'une chef qui... se fait battre comme ça par une inconnue. Et on voit ces hommes qui sont appelés en coulisses à dire, ben voilà, allô, je veux me présenter. Comment toi, tu as vécu ça?
Beaucoup d'émotions en même temps, parce que quand cet événement-là s'est passé puis qu'on le regardait à la télévision, moi, dans mon comté, j'étais encore à Saint-Hubert, les résultats n'étaient pas encore sortis. Et... à ce moment-là, je pense même que je tirais de la patte. Donc, je ne gagnais pas. C'est ensuite que finalement, parce que pendant trois quarts de la soirée, je perdais, et c'est rien que dans le dernier quart que j'ai gagné. Mais c'était pathétique, je dirais, de voir ça. Tout le monde, parce que je n'étais pas toute seule, on était nombreux. Tout le monde était quand même fébrile parce qu'on n'avait pas encore nos résultats à Saint-Hubert. Mais les gens qui étaient avec moi, les militants... C'était déjà un gros choc, la défaite. Puis de voir le Parti libéral qui revenait au pouvoir avec toute la corruption, on se disait, c'est épouvantable. Comment est-ce qu'on a pu oublier? Mais de voir que sur la scène, la défaite était déjà consommée. Ça ne sera pas très politiquement correct ce que je vais vous dire, mais on avait l'impression de vautour, hein, sur la scène. Et ça... Je pense que c'est des choses comme ça qui se passent en politique qui fait que les gens n'aiment pas la politique.
Et le fait que tu te présentes, c'était aussi pour ça, parce que, bon, tu l'as eu, il y a PKP qui démissionne, Pierre-Carl Pelado, tu y vas une première fois avec toute ton énergie qu'on connaît. Première défaite.
Oui, mais vous savez, en politique... ce qu'on sème, on peut le faire pour gagner, puis on espère toujours gagner. Il ne faut pas s'illusionner, là, on espère toujours gagner. Mais même quand on ne gagne pas, on fait avancer des idées, on fait avancer des choses. Oui. Aujourd'hui, on parle de matériel scolaire gratuit primaire, secondaire. Bien ça, c'est une idée que j'ai amenée à la première course à la chefferie. Voilà. Oui. Donc, les idées continuent à vivre. Et ça, je trouve que ça vaut la peine. Et le développement de vision, de réflexion qui s'est fait pendant toute cette course-là, la diffusion que j'ai réussi à en faire, c'est ça d'avancer pour l'indépendance du Québec, parce que j'étais la seule et la première fois et la deuxième fois à assumer complètement l'indépendance du Québec.
La deuxième fois, et tu es, je le répète, un exemple, la deuxième fois, tu y vas aussi. Il y a tu perds, j'aime pas ce mot-là, mais il y a des résultats, il y a des résultats, tu perds une deuxième fois. Et en même temps, une femme qui est intègre, brillante, qui a un chemin de vie extraordinaire, il n'y a pas personne du PQ qui t'appuie. Alors c'est un petit peu, comme tu disais, on parlait des vautours, il y a quelque chose... Comment tu as analysé comme femme et comment tu es allée chercher dans ton énergie, parce que c'est des gens que tu voyais au quotidien. Tu es encore élue. Mais comment on se sent, comment, où est-ce qu'on, Martine, on prend notre force de dire, un tel, il y a tant de personnes qui l'appuient, moi, j'en ai pas. Comment tu vas chercher ta force là-dedans? De dire, parce qu'à un moment donné, on aurait peut-être envie de leur dire, tu pourrais peut-être m'appuyer, il y a quelque chose. Comment ça se passe chez toi?
Bien, dans tous ces appuis-là, les gens le font pour toutes sortes de raisons. Mais je crois que ça faisait tellement longtemps au Parti québécois qu'il y avait une espèce de croyance. Je vais appeler ça une croyance. Mm-hmm. Une croyance que pour réussir à prendre le pouvoir, il fallait tasser l'indépendance parce que c'était notre option indépendantiste qui nuisait au Parti québécois. Et ça, je crois que ce sont des arguments fédéralistes canadianistes qui ont été intégrés avec le temps par des membres, certains membres du Parti québécois et par, malheureusement, trop d'élus du Parti québécois. Et moi, en ayant une vision très assumée, en disant, oui, on est capable de faire l'indépendance dans le premier mandat, on est assez riche, on a assez d'expertise, on a assez de connaissances, on sait comment gérer l'État. Et avec une vision aussi du développement économique beaucoup plus verte que ce que le Parti québécois avait fait dans les dernières années, ça dérangeait. Et je crois que ça, le fait d'avoir cette confiance-là, d'aller de l'avant avec des idées qui pouvaient être quand même assez différentes de ce qui avait été fait par le Parti québécois des dernières années, des fois, les différences, puis c'est vrai en politique, mais c'est vrai dans les relations humaines, dans les relations sociales. Des fois, les différences, ça fait peur.
Est-ce qu'on peut dire que le fait que tu sois une femme, le fait que tu veuilles l'indépendance, ça les dérangeait? Ça dérangeait le...
Je dirais, moi, je pense, moi, je peux pas savoir, mais je pense pas pour les députés. Il y a quelques membres militants qui sont venus me voir, dont une femme, une fois. Qui m'a dit, Madame Ouellette, Martine, j'aimerais tellement ça que ce soit une femme. Puis vraiment, tes idées, je suis exactement à la même place que toi. Mais après la défaite de Pauline Marois, je pense que le Québec n'est pas prêt pour une autre femme comme première ministre. Et je suis restée estomaquée parce que c'était une femme que je connaissais, une féministe, et que je respectais beaucoup. J'étais quand même très choquée et je lui ai répondu. J'ai répondu, écoutez, il y en a combien d'hommes premiers ministres qui ont perdu leurs élections, puis ça ne nous a pas empêchés, puis dans bien des cas qui n'étaient vraiment pas bons, puis même corrompus, comme on voit que Jean Charest est sous enquête avec toute la commission Charbonneau. Et ça ne nous a pas empêchés d'élire d'autres hommes.
Alors, tu vois, tu as complètement raison et tu as poursuivi, parce que là, tu es la première chef du Bloc québécois. Là, maintenant, tu portes les deux chapeaux, mais jusqu'en... D'ailleurs, j'ai remarqué que dans ton CV, le numéro 8 revient souvent, 2018, 28 ans, il est toujours là. Donc là, tu as les deux chapeaux. Mais une autre question qui va peut-être... Et tu as le droit de répondre ou pas, à 20% du Parti québécois, est-ce que ça ne te donne pas raison d'avoir dit qu'il fallait proposer une proposition claire sur l'indépendance?
Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en considération, puis que les sondages, c'est très volatile, puis ça a encore le temps de changer beaucoup. Mais moi, j'ai toujours pensé, et je pense encore aujourd'hui, que l'indépendance, tant pour le Parti québécois que pour le Bloc québécois, c'est notre principale force. Et que de se priver de notre principale force, c'est pas ça qui va nous aider. Et c'est sûr que dans ce cas-ci, là, c'est Jean-François qui a été élu. Moi et Jean-François, on était vraiment aux antipodes à la deuxième course à la chefferie au Parti québécois. Il y avait une position très claire. Lui, c'était très clair, c'est il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat. On n'utilisera même pas les moyens de l'État pour faire avancer l'indépendance. Et donc, je reporte tout ça après 2022. Et moi, c'est très clair, il y aura donc référendum pour qu'on réalise l'indépendance dans le premier mandat, parce que plus on attend, plus on recule, puis on perd. Et les autres étaient dans le milieu. Donc, plus d'ambiguïté. Un discours qui a été tenu depuis tellement d'années sur l'ambiguïté que Jean-François, son pari, c'est en disant un discours clair qu'on n'en fera pas, qu'on sortirait de l'ambiguïté. Et moi, le pari, c'est de dire un discours clair, mais qu'on va faire l'indépendance. Et donc, c'était ça le portrait de la deuxième course à la chefferie. Et moi, je suis convaincue qu'un parti indépendantiste qui ne veut pas présenter l'indépendance, c'est comme, c'est comme de dire qu'un parti environnementaliste, le Parti vert, par exemple, se présenterait et disait « Inquiétez-vous pas, on ne va faire aucune mesure en environnement dans le premier mandat.
» Voilà. Je veux que tu me parles, en terminant, de ta famille, d'Emmanuel, de Guillaume, tes enfants. Tu vas chercher ta force comment auprès d'eux? Sont des enfants superbes, déjà impliqués. J'ai connu ta fille justement dans un militantisme. Comment tu vas chercher ta force auprès de ta famille?
Écoutez, quand j'ai commencé à me présenter, ma fille, elle avait 10 ans. Aujourd'hui, 18 ans. Et c'est sûr que ça demande beaucoup d'absence. Et ma fille, c'est difficile d'expliquer à un enfant de 10 ans, c'est quoi le métier de député? Et au début, c'est sûr que ce n'était pas nécessairement facile, mais à un moment donné, elle me demande l'information. Elle dit, oh, maman, tu me donnerais-tu de l'information sur les gaz de schiste? Elle était en sixième année. Et je disais, oui, mais c'est parce que de l'information, il y en a, puis c'est quand même assez technique. J'ai dit, bien, si tu veux, je pourrais aller faire une présentation dans ta classe. Vous savez, les enfants, quand c'est leur père, ils disent, oh, je ne suis pas sûre que ma professeure elle va être d'accord. Je dis, en tout cas, je dis, tu verras. Sinon, je vais te donner des documents, tu verras. Elle revient le lendemain, elle me dit, oh, maman, elle dit, ma professeure serait honorée de te recevoir. Fait que je disais, ouais, j'ai quand même fait tout un engagement, moi, d'aller parler des gaz de schiste à une classe de sixième année. Et finalement, la semaine suivante, j'y vais et je vais leur expliquer, je leur fais des dessins, je leur explique, là, justement, le gaz naturel conventionnel, que c'est dans une grande bulle, que le gaz de schiste, bien, on creuse dans le schiste, puis le schiste, c'est comme si c'était une palette de chocolat aéro. Et que là, dans la palette de chocolat, il y a plein de petites bulles, hein, et que là, on fait un forage horizontal avec un tuyau avec plein de trous et qu'on envoie dans ça de l'eau avec plein de produits chimiques pour faire éclater les petites bulles de la palette de chocolat aéro. Et c'est comme ça que le schiste remonte. Puis là, bien, j'ai dit, bien, quand des fois, ça fait des chemins, ça ne revient pas nécessairement dans le tuyau, parce que quand ça fait les cracks, bien, ça n'arrête pas nécessairement à la palette de chocolat. Des fois, ça va rejoindre de l'eau souterraine. Et plein de questions de la classe de sixième année.
Elle est complètement restée allumée.
Oui, elle avait des questions, mais quand elle a vu que tous ses amis avaient aussi des questions, étaient intéressés, là, elle a compris un peu c'était quoi mon travail. Et quand, par exemple, trois semaines plus tard, je devais quitter la fin de semaine pour aller faire une marche contre les gaz de schiste, elle me dit « Maman, vas-y, c'est important. » C'est une grande différence. Elle dit « Ah, bien, maman, je vais m'ennuyer. »
Un autre moment douloureux, je suis désolée, j'ai envie d'aller là-dedans, mais pour moi, tu es un exemple de résilience, de battante. Et on a appris juste à la fin de ta deuxième course, tu as perdu un membre de ta famille pendant que tu étais en course.
Oui, mais en fait, c'est ça. Lorsque plusieurs ont pensé qu'après la deuxième course à la chefferie, parce que j'ai pris du recul, qu'il pouvait y avoir des problèmes, en fait, c'était pas ça du tout. C'est mon père qui était malade. Et j'ai pris du recul parce que je l'accompagnais à l'hôpital, je l'accompagnais chez le médecin, parce qu'avec la maladie, il comprenait un peu moins bien ce qui se passait. Et donc, je n'avais pas du tout l'intention à ce moment-là de me rembarquer dans une troisième course, celle du Bloc. Puis les gens du Bloc sont venus me voir à peu près au mois de décembre en me disant « Bien, Martine, on voudrait que tu te présentes. » J'ai dit « Écoutez, je ne suis pas là-dedans pantoute. Mon père est malade. » Ils m'ont dit « On voudrait que tu y penses. » Parce que j'ai commencé par dire non. J'ai dit « Écoutez, je vais prendre le temps des fêtes pour y penser. » Et c'est sûr que pendant tout le temps des fêtes, mon père est rentré à l'hôpital. Et finalement, j'ai décidé d'embarquer. On pourra revenir pour les raisons, mais c'est ça. Et pendant la deuxième course à la chefferie, pendant l'été, C'est pendant cet été-là qu'il a commencé à être malade. Au début, on ne savait pas c'était quoi. C'est juste à l'automne, vers le mois d'octobre, qu'il y a eu une confirmation que c'était le cancer. On n'a jamais su c'était cancer de quoi, mais les métastases étaient rendues au cerveau. Donc, ça a été un temps des fêtes. Ben, d'ailleurs, ça fait juste un an. C'était Noël l'année passée. Un temps des fêtes très difficile. C'est ça, il est décédé au mois de février.
Est-ce que ça t'a donné cette énergie-là pour dire « J'y vais, papa, je vais y aller une troisième fois » parce que tu as remis ça pour une troisième fois et puis là, tu es chef, tu as réussi, comment, entre guillemets, parce que même si c'est des échecs, c'est quand même des réussites parce qu'on apprend tout le temps, comme tu l'as dit, mon programme, j'ai pu mettre. Mais est-ce que ton père t'aurait aidé à plonger une troisième fois?
Bien, c'est sûr, ils m'ont toujours encouragée, mais je dirais que dans ce cas-là, ça demandait quand même beaucoup d'énergie de faire l'appui du côté de la maladie. Je suis allée quand même. Parce que je crois que le Bloc québécois est un véhicule extrêmement important. Puis qu'il y a tout un renouveau qui avait déjà été apporté par Mario Beaulieu. Je crois que ça prend toujours un véhicule pour ce que j'appelle les indépendantistes assumés, ceux qui sont peut-être plus proactifs. Puis ça prend toutes les catégories. Et les uns ne sont pas meilleurs que les autres. Mais je crois que c'est important, ce véhicule-là du Bloc québécois. Et donc, j'ai quand même décidé d'aller à la course à la chefferie malgré la maladie de mon père. Mais j'avais vraiment averti les gens de mon équipe que la priorité restait mon père et que n'importe quand pendant la course, j'aurais peut-être des pauses à prendre pour aller à l'hôpital, pour aller chez le médecin. C'était entendu avec les gens de l'équipe.
Merci Martine. En terminant, Martine Ouellette, dans 20 ans, elle sera où?
J'en ai aucune espèce d'idée.
Alors, on lève tes lunettes très doucement parce qu'elle va faire quelque chose. Pour les yeux, puis doucement.
Oh, oui, c'est clair.
Et c'est ça. Merci.